les podcasts de Vatican News.
C'est un véritable plaidoyer pour remettre l'homme au centre de l'économie. Ce jeudi matin, dans la salle de presse du Saint-Siège, était présenté un nouveau texte, fruit du travail de deux dicastères, la Congrégation pour la doctrine de la foi et le dicastère pour le développement humain intégral. Intitulé sobrement « Questions économiques et financières », ce document n'épargne pas le système économique actuel mondial dominé par la finance qui produit de nombreuses inégalités. Rédigé avec l'aide d'économistes et financiers à l'extérieur du Vatican, ce texte déplore que le profit ait pris le pas sur la notion de bien commun. Il dessine également des pistes de réflexion pour une finance régulée et vertueuse. Pour nous expliquer la portée de ce texte et son articulation, nous avons interrogé le père Bruno-Marie Dufay, le sous-secrétaire du dicastère pour le développement humain intégral.
On est un peu dans une approche transversale qui est assez caractéristique de ce que nous essayons de faire dans le cadre du dicastère pour le développement humain intégral, c'est-à-dire de ne plus séparer, ou en tout cas de ne pas trop distinguer les disciplines, mais d'établir un dialogue entre les disciplines. Et quand vous regardez le texte lui-même, vous voyez bien qu'il est question à la fois d'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire d'une certaine représentation de la personne humaine, de responsabilité, d'économie et aussi de ce qui engage l'avenir, puisqu'il est question à la fois dans le contexte de mondialisation, il est question à la fois de régulation du monde de la finance, de ce monde qui est souvent clos sur lui-même, qui est auto-centré, mais aussi de considérer les enjeux qui concernent le travail, l'avenir de la planète, la biodiversité et la question de l'avenir de la vie sur la planète.
Vous déplorez que, évidemment, l'homme ne soit pas mis au centre. Vous dénoncez un égoïsme aveugle. Ça, c'est une des idées forces. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a jamais été autant marqué par les inégalités.
C'est tout à fait vrai et c'est tout à fait dans la dynamique de la pensée du pape François et en particulier dans ce qu'on trouve dans le texte de référence qu'est Laudato Si. C'est en effet le caractère, on pourrait dire, d'autisme ou de fermeture du monde financier, je dis bien du monde financier, pas forcément du monde économique. Il faut quand même bien distinguer les choses. Il n'y a pas dans ce texte de condamnation de l'activité économique, au contraire. Mais il y a en effet un procès, il faut dire les choses franchement, d'une bulle financière, d'un monde financier qui n'est plus au service de l'économie. Les produits financiers ne sont au service de personne, ou plus exactement, ne sont que pour le bénéfice et le profit de quelques-uns. Et ça n'est plus possible. Nous sommes arrivés à un point de rupture. À cet égard, en effet, on peut dire qu'il y a un procès, non pas du système économique mondial, mais surtout du système financier auto-centré qui ne met plus l'argent au service du travail, mais au service de la seule rentabilité d'elle-même, si l'on peut dire.
Vous soulignez aussi, vous dessinez des pistes, évidemment, pour changer de système, changer de paradigme. Une des solutions stipulées, c'est la régulation des marchés. On sait que c'est une actualité qui revient souvent dans la bouche des politiques, mais qui n'est pas suffisamment appliquée.
À partir du moment où on dit régulation, délimitation, effectivement, on sent très vite la réticence. Or, la traduction de la morale, la traduction éthique, qui consiste à ce que l'on remette l'argent au service de la croissance et au service du partage dans la communauté humaine, cela passe évidemment par une régulation. Donc c'est une pensée de la limite et c'est aussi une pensée de l'orientation, de la destination des biens. Pour le dire de manière très franche, nous allons arriver au 3e anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Nous avons besoin d'argent pour que l'écologie soit honorée. Nous avons besoin d'argent pour que la biodiversité soit respectée, pour éviter le flux des migrants climatiques qui sont contraints de quitter leur terre à cause du dérèglement climatique. Nous avons donc besoin de cet argent, mais évidemment, nous avons besoin de réguler cet argent, d'orienter cette affectation des masses financières. Ce sont des masses financières qui, pour l'instant, excusez-moi l'expression, mais ne servent à rien. Ne servent à rien pour l'avenir de la vie et pour l'avenir de la planète. Donc la régulation, ce n'est pas pour condamner des personnes, c'est pour orienter la réalité financière et la réalité économique vers un bien commun, c'est-à-dire vers l'avenir des générations futures, vers la possibilité pour les générations futures de pouvoir encore vivre sur cette planète et de pouvoir encore y vivre ensemble. Et c'est ça dont il s'agit fondamentalement.
Vous insistez beaucoup sur le bien-être de l'humanité qui est la condition de la solidarité et de la justice. Comme si finalement, aujourd'hui, l'Église opposait au cercle vicieux d'une économie mondialisée et qui rejette les plus faibles aujourd'hui, un cercle cercle vertueux.
Oui, on peut dire ça, mais ça n'est pas vraiment une nouveauté, parce que vous trouvez ça déjà sous la plume de Jean-Paul II, dans Sollicitudo Rei Socialis en 1988. Donc, en fait, ça n'est pas tout à fait nouveau. Lorsque Jean-Paul II disait, nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans une réalité mondialisée, et nous sommes dans l'interdépendance. Et la réalité de l'interdépendance requiert de la part des hommes et femmes de bonne volonté, et évidemment des chrétiens les premiers en première ligne, le principe de solidarité. Alors le principe de solidarité consiste à dire que nous avons besoin de l'autre et que l'autre a besoin de nous, que chacun, en fonction de ses talents, en fonction de son expérience, de ses capacités, apporte quelque chose à la communauté et à la communauté humaine. Mais pour pouvoir développer son talent, encore faut-il avoir de quoi satisfaire ses besoins premiers et de pouvoir être en capacité de donner ce que l'on peut donner. Donc pour pouvoir participer à une œuvre commune, il faut évidemment que nous puissions prendre soin de cette personne. Donc le premier principe est le principe de la dignité des personnes, de la dignité de chaque personne, de chaque enfant, de chaque personne, de chaque petite communauté humaine qui peut contribuer à une œuvre commune, qui peut contribuer à un ajustement et un équilibre des besoins et au partage. Le bien-être, c'est-à-dire la capacité d'exister et la capacité de déployer ses talents, ses possibilités, est la condition pour participer à une œuvre commune, c'est-à-dire au bien commun. Il n'y a pas de bien commun si les gens ont faim. Il ne peut pas y avoir de considération du bien commun si les gens sont en train de mourir de misère, de violence, d'agression ou de migration parce qu'ils sont contraints de quitter leur terre. Il faut que nous gardions les yeux sur les réalités concrètes de la vie et parfois de la survie des personnes pour pouvoir envisager cet avenir et ce bien commun qui est à la fois le bien de la communauté et le partage des biens.
Vous souhaitez que des cours dans les écoles de commerce, les business schools sur l'économie et la finance à la lumière de l'homme, à la lumière de ce que propose l'Église aujourd'hui soient assurés. Vous avez bon espoir que HEC à la London Business School, à Harvard, cette vision de l'Église arrive à rentrer, à pousser la porte ?
Écoutez, je crois que beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup plus qu'on ne croit, beaucoup d'enseignants et de chercheurs, sont en attente de ce que l'on pourrait appeler une inspiration morale de l'économie. Parce que, au fond, ce que l'on dit aux États-Unis dans certaines universités, c'est qu'il vaut mieux avoir une éthique économique qu'une économie dont on ne sait pas où elle nous emmène. Par ailleurs, ce que je peux aussi vous dire, c'est que nous avons un contexte plutôt favorable, sans doute parce que toutes les personnes qui ont une responsabilité dans le monde économique et financier se rendent très bien compte que le système dans lequel nous sommes est une machine qui est en surchauffe. C'est une machine un peu folle. Je ne suis pas sûr quand même que ces écoles-là ne soient pas en attente de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle philosophie de la croissance et d'une nouvelle philosophie du développement. Donc nous sommes vraiment à un rendez-vous important qui concerne l'avenir de la communauté humaine. Et je pense qu'on peut en effet faire des propositions en termes de sens, en termes d'orientation de l'activité humaine et en termes d'affectation de l'argent, de ce qu'on appelle dans notre jargon le social impact investment, c'est-à-dire les implications sociales des investissements. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire investir ? Où voulons-nous mettre de l'argent ? Sommes-nous prêts à mettre l'argent nécessaire pour sauver la planète ? On a sauvé les banques en 2008 avec beaucoup d'argent. On a besoin du même type d'investissement pour sauver la planète. Et là, nous sommes évidemment dans notre mission d'Église, à la fois doctrine de la foi, dicaster pour le développement humain intégral, en faisant cette proposition d'une contribution de ce type.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.